Dans un grand temple rentre un petit homme, faible et tremblant. Avançant à petits pas dans ce lieu gigantesque, il se fraye un chemin au travers d'une foule aux multiples conflits. Et derrière chaque conflit, la statue d'un grand homme et un groupe qui pense se battre pour son honneur. Ils ne s'écoutent pas, ils hurlent. Et le petit homme continue son chemin, à peine vu de la foule. Il monte à la chaire, au pupitre. La foule se tait et attend qu'il parle. Après un moment de silence, cet homme finit par dire « Comment ? Comment est-ce que ce qui vous divise peut être plus grand que ce Christ qui vous unit ?» Si je devais résumer en peu de mots l'introduction de l'Épître aux Corinthiens, je le ferais par cette fable. Ce petit homme, faible et tremblant, est l'apôtre Paul. Oui, on n'a pas tendance à penser à lui comme étant petit, faible et tremblant, et le 1m85 de notre pasteur Paul n'aide pas à identifier l'autre Paul comme étant petit.
Soyons précis.
Mais c'est pourtant la description que l'apôtre Paul donne de lui-même, justement en venant parler aux Corinthiens. Quand Paul vient leur écrire cette lettre, les Corinthiens font face à une grande problématique, ou à de multiples problématiques, mais qui, et on le verra, ont un problème de fond, la division. Le chapitre 1, dans son ensemble, montre que l'origine de cette division est un orgueil intellectuel et spirituel, difficilement compatible avec l'Évangile. Ce premier chapitre est donc une confrontation entre la sagesse véritable de Dieu et celle manifeste des hommes. La ville de Corinthe était déjà pas évidente. C'est une ville portuaire qui a été détruite par les Romains, puis reconstruite. C'était un melting pot économique et culturel, à la fois grec, romaine. Ça a aussi été un lieu d'accueil de la diaspora juive, et il y avait aussi une présence égyptienne. Il y avait de tout. Elle était aussi, et surtout, connue partout dans l'Antiquité pour sa débauche sexuelle. L'un des cultes principaux était en l'honneur d'Aphrodite, Vénus chez les Romains, la déesse, disons, de l'érotisme. Merci, Anne-Laure. Donc, quand l'apôtre Paul dit que les chrétiens de l'église de Corinthe sont connus pour une immoralité sexuelle telle qu'on n'en voit pas chez les non-croyants, ça dit quelque chose. Partout dans l'Antiquité, on disait « Ouais, les Corinthiens, c'est des débauchés quand même. » Et les chrétiens de Corinthe, c'était plus encore. Une partie, en tout cas. Mais la spiritualité des Corinthiens était là aussi un problème. Au travers de leur religion, les cultes à mystère qui contenaient des rites de passage, des rituels d'initiation, ils pensaient arriver à un plus haut rang de sagesse et de réputation. Donc, ils amenaient avec eux dans l'Église toutes leurs dérives, tous leurs péchés, tout leur orgueil. Et les signes extérieurs de piété que nous honorons, le baptême, les dons de l'Esprit, étaient vus comme eux par un moyen de s'enorgueillir. Paul avait du taf. Il a écrit la première épître aux Corinthiens comme un condensé de théologie pratique, d'éthique chrétienne. Voici comment vivre en chrétien. Et pour ça, évidemment, Paul revient aux bases de ce qu'est l'Évangile et de comment la sagesse de Dieu dépasse très largement celle des Corinthiens, et donc la nôtre. La question qui nous guidera au travers de cette prédication est la suivante. Comment 1 Corinthiens 1 oppose cette folie de l'Évangile, cet éloge de la folie de Dieu, à la sagesse apparente des hommes? J'en arrive à la lecture du texte. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 31, que je lis dans la version du Sommaire. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse de ce monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, que peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, que celui qui veuille éprouver de la fierté, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Jusqu'ici, parole de Dieu. Ce texte, plus je le travaillais, plus il me semblait évident qu'il y avait deux axes principaux qui s'opposaient. Une dichotomie. Je suis prof doc, il faut bien que je m'amuse un petit peu. Une opposition entre cette sagesse apparente des hommes et cette folie de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Christ à la croix. Nous commencerons donc par ma première partie, la sagesse des hommes et la division qu'elle cause. Paul écrit l'épître aux Corinthiens avec cette volonté première de s'opposer aux divisions sous toutes ses formes. Certains des Corinthiens, et c'était quelque chose de particulièrement commun dans la culture grecque, se définissaient d'un maître, de Paul, de Pierre, d'Apollos, de Christ. Certains, je vous l'ai dit, considèrent les signes extérieurs de piété comme un motif d'orgueil. Il y a un grand écart dans l'Église entre les riches et les pauvres. Il y a ceux qui viennent au repas du Seigneur avec énormément de choses à manger, qui s'y enivrent, et ceux qui viennent sans rien. Notre Église, merci à Florence et autres d'organiser la juste distribution des biens pendant le repas du Seigneur. Le problème de la division ne vient pas en soi des maîtres à penser, mais plutôt des disciples. Il n'y avait pas de complice entre Apollos et Paul et Pierre et évidemment Christ. Il n'y avait pas de guerre ouverte, de désaccord théologique. Mais il y avait trois serviteurs d'un même maître qui avaient la responsabilité d'enseigner pour que les croyants grandissent dans leur connaissance de Dieu et dans leur vie de disciple. Trois membres d'un seul corps dont Jésus est la tête. Pour nous, aujourd'hui, dans l'Église, cette prise de parti est peut-être moins visible. Mais en sommes-nous pour autant libérés? Réfléchissons-y une minute. Non, nous ne nous définirons pas de Norbert, de Hamish, de Paul. Mais combien de fois nos avis nous ont conduits à nous diviser, à considérer l'avis de l'autre comme inférieur, comme digne d'être jugé? Oui, sur le papier, nous avons tous un parti pris théologique qui peut sembler sage et réfléchi. Venons prendre un très mauvais exemple. Moi. J'ai bataillé pendant longtemps, et je ne vous cache pas que ça reste un sujet important pour moi, contre la facilité à venir prendre parti très vite, Si vous demandez à mon père à la fin du culte si je suis quelqu'un de tranché, il vous répondra « Oula, oui ». Il aura raison. Et ce problème m'a souvent conduit à me confronter à des frères et sœurs. Non pas dans un simple partage d'opinions, mais dans une confrontation réelle. Je terminais la discussion avec l'envie d'avoir raison plus qu'avec l'envie d'aimer mon frère ou d'aimer ma sœur. Et j'ai blessé des gens comme ça. Et cette réaction est la réaction des Corinthiens que dénonce Paul. Si convaincus d'avoir raison qu'ils en oublient d'aimer leurs frères et leurs sœurs. Je me souviens, je ne sais plus où je l'ai entendu, mais d'un témoignage d'une sœur qui s'était convertie pendant la période hippie. Elle est arrivée pendant un culte, réformée évangélique, très carrée, et elle est arrivée avec tous ses amis de vie en collectivité et concrètement de vie de débauche, et elle est arrivée avec son chien. Et son chien l'a accompagnée pendant tout le culte, et des gens étaient choqués, un peu dérangés, mais le pasteur n'a pas décidé de prendre parti et de s'opposer en disant « ce chien n'a pas sa place dans l'église ». Je ne viens pas dire que l'évangile est aussi pour nos animaux de compagnie. En revanche, cette femme, en s'étant convertie, des années plus tard, est venue dire « si mon pasteur m'avait dit que mon chien n'avait pas sa place, il aurait eu raison, et aujourd'hui je le sais. Mais à l'époque, je ne l'aurais pas entendu. J'ai rencontré le Seigneur parce qu'il est venu à moi sans jugement et sans confrontation d'idées. » En creusant un petit peu dans nos âmes, on peut comprendre pourquoi cette prise de parti est aussi solidement ancrée. Pour les Corinthiens, comme pour nous, nos opinions peuvent parfois nous définir. Elles nous rassurent et nous offrent un sentiment d'appartenance, parfois de supériorité. Et c'est justement ce qui est dangereux. Mais ce n'est pas pour autant une interdiction au dialogue ou à certains désaccords. Nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Et c'est une bonne chose. Paul ne prêche pas l'évangile de l'uniformisation, mais de l'harmonie, dit Mathieu Gangloff. Il n'y a pas de mise en garde contre l'individualité, mais contre l'individualisme. Je m'explique. Pas de problème à avoir un avis, une réflexion, un avis, des goûts qui nous sont propres. Mais l'individualisme, en revanche, nous pousse à nous couper du groupe et du lien en se privilégiant, je et pas nous. Comment est-ce que ce qui vous divise peut être plus grand que ce Christ qui vous unit ? Non, nous ne dirons pas de Paul ou de Pierre. Et nous pouvons vivre l'Église en étant calviniste ou arminianiste, en étant charismatique ou en ne l'étant pas, en étant de gauche ou en étant de droite. Mais nous sommes, dans ce passage, encouragés à ne pas être contre quelqu'un, à ne pas estimer notre avis si important qui nous conduit à le mettre à une place plus haute, à un piédestal plus haut que celui sur lequel Jésus est et doit être. Et en disant ça, je viens clairement prêcher contre moi-même. Derrière le problème du choix d'un maître, la confrontation entre les groupes est le problème de fond, car il pouvait en émerger cet esprit de rivalité et cet esprit de supériorité. Ouvrir la bouteille à une main, c'est un défi. Je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais... Nous n'avons pas à nous réclamer de qui que ce soit, même de Christ, si c'est par volonté de se considérer comme étant supérieur. Et ce mal, dans l'église de Corinthe, creusait un grand écart entre tous ceux qui avaient besoin de se trouver une caste et un avis pour se trouver une identité, pour être accepté, pour être admiré, pour être quelqu'un. Un petit peu comme le pharisien et le publicain, chacun venant à Dieu pour prier. Le pharisien persuadé de sa supériorité. Le publicain prie pour demander pardon et s'humilie. Il se reconnaît coupable, en besoin, et il peut donc laisser Jésus le changer et le faire grandir. Ce rappel de cette parabole nous amène à notre deuxième partie, cette folie de la croix, qui est pourtant sagesse de Dieu. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. L'apôtre Paul critique pas mal la sagesse des beaux discours, mais il sait l'utiliser quand même, quand il faut. Ici, il met en opposition ce que les hommes préfèrent et la réponse qui est donnée par Dieu. Paul vient nous dire, à nous aussi, que là où nous cherchons du glorieux, du puissant, de l'éloquent, du miraculeux, Dieu répond par la folie de l'humble, du discret, du méprisable. Et c'est évidemment cet exemple que Jésus a suivi, allant jusqu'à mourir sur la croix comme un criminel, après avoir été humilié et après avoir pris la place du coupable. Cet enseignement que vient donner Paul est le rappel qu'il donne aux Corinthiens. À ceux qui cherchent l'honneur, il leur répond par la croix. À ceux qui cherchent la vérité et la sagesse, il leur répond par la croix. À ceux qui cherchent la justice, il leur répond par la croix. Paul répond aux mille voix différentes qui se lèvent qu'à chacune de leurs revendications, il n'y a qu'une seule réponse, Jésus-Christ crucifié. On associe souvent cette phrase à Spurgeon. Mon entière théologie peut être résumée en 5 mots. Jésus est mort pour moi. À la volonté des hommes, la réponse de Dieu est toujours une inversion des valeurs. Oui, l'homme a construit Babel pour rivaliser avec Dieu, mais Dieu, lui, va choisir Abraham seul pour en faire le père d'une multitude, le père de son peuple. L'homme choisirait à la force de Saül, Dieu choisit au cœur de David. Dieu choisit l'enfant Samuel et Gédéon. Aucun d'entre eux n'était grand. Mais pourtant, David devient roi d'Israël, le plus grand roi jusqu'à Jésus. Pourtant, Samuel devient prophète et juge. Pourtant, Gédéon devient un grand guerrier et un grand chef militaire. Dieu a choisi Joseph, l'envoie 13 ans en exil, 2 ans en prison, et fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Dieu sauve Moïse et le choisit alors qu'il est bègue, vieillard et en fuite. Oui, la répétition est dense, mais tout ça pour vous montrer que ce Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu qui a changé de paradigme au milieu de l'humanité en disant « Ah ben maintenant c'est Jésus ». Non, Jésus a toujours choisi ce qui était faible pour couvrir de honte le sage. L'homme attend un Messie puissant, terrible, guerrier. Il hérite du fils d'un charpentier, pauvre et errant, qui meurt sur le bois comme un criminel. Donc oui, une folie pour les Grecs. Comment Dieu peut être crucifié? Comment le Créateur de toutes choses peut être mis à mort comme un simple brigand? Et pour les Juifs, comment est-ce que le Messie, loin de Dieu, peut être pendu au bois? Le Deutéronome le dit clairement, « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Ils estimaient la pureté rituelle, pas un homme qui subit une mort dégradante et impure. Mais le Messie est devenu impureté pour eux. Oui, la croix est une folie. Une folie qui nous dit que Dieu s'est fait chair pour mourir humilié, pour que ceux qui auraient dû mourir bénéficient d'une gloire éternelle. Nous avons un sauveur qui s'est humilié, qui est né d'une vierge, et c'est dur à comprendre, qui est mort sur la croix. Mais nous avons aussi et surtout un Seigneur ressuscité, en gloire, en puissance. Le Jésus qui nous est décrit dans l'Apocalypse, terrifiant, terrible, n'est pas un Jésus différent de celui que nous connaissons. Il y a juste cette part qui est vue par ceux qui ne croient pas en lui et celui que nous voyons. Nous avons celui qui est devenu pour nous sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Mais ce Jésus choisit de se révéler aux humbles. Il pourrait le faire en gloire, manifeste, devant tous, et un jour il le fera. Mais pour aujourd'hui, la sagesse de Dieu est de se glorifier dans la faiblesse de ceux qui le servent. Et il a fait de nous le dépositaire de ce message, responsable d'annoncer cette folie, par la prédication et par celle du témoignage. Nous devons révéler ce Jésus par nos vies changées, mais il lui serait si facile de se passer de nous. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit, verset 19, pardon. En effet, Dieu était en Christ et, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Jésus n'a pas besoin de nous pour annoncer ce message, mais il nous le confie et nous envoie pour le dire. Quel privilège quand on y pense, de venir se dire que nous avons un message qui nous vient de Dieu et qui nous envoie pour dire aux autres. Quel privilège quand on y pense de se dire qu'alors qu'on est pécheurs et par nous-mêmes condamnés, il place en nous quelque chose qui nous demande de partager. C'est un honneur fou. J'y pensais avant de monter sur la chaire en me disant « Mais ce message que j'annonce va certes être un peu corrompu par ma personne, mais j'annonce quelque chose de la part de Dieu. Quel privilège !» À sa résurrection, Jésus a choisi d'apparaître aux femmes et aux apôtres. Pas aux pharisiens ou aux spécialistes de la loi, pas aux hauts sanhédrins. Non, il a choisi des femmes, des pécheurs, un zélote, donc un rebelle, un collecteur d'impôts. Il a choisi des humbles. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. La croix est puissance de Dieu, puisqu'elle annonce le miracle de la résurrection et donc notre rédemption. La croix est la sagesse de Dieu, parce qu'elle renvoie à ce dont nous avons besoin pour connaître le Père. Il nous décentre du « je » et nous fait réaliser que nous avons besoin de lui. Imaginez deux hommes. J'aime bien les contes philosophiques. Le premier qui cherche à établir sa maison rapidement et qui la bâtit sur le sable. Nous dirons pour simplifier qu'il était fou. Il bâtit sur ce qui est confortable à ses yeux, sur ce qui ne lui coûte pas grand-chose et qui le valorise, sur sa sagesse et son amour-propre. Quand viendra la tempête, ça ne tiendra pas. Et la tempête viendra. Il y a aussi celui qui est battu sur le roc, celui qui prend conscience de la futilité de ce vers quoi son cœur le porte et d'où est-ce que cela conduit. Celui qui comprend à quel point il a besoin de Christ et que la fondation sur laquelle il bâtit sa vie, c'est l'œuvre de la croix. Et pas un petit peu, pas en plus, pas comme un point de départ avant de faire ce qu'il aime, mais comme la fondation sur laquelle tout est construit. Cette parabole en Matthieu 7, vous la connaissez par cœur. On l'a fait même chanter aux enfants. Paul dit un peu ce même message, d'une façon plus élaborée, parce que c'est un peuple qui aime les grands discours, mais l'idée est la même. L'intelligence apparente des hommes est une folie et le conduira à la ruine. Et la sagesse, la vraie, c'est de se construire sur Jésus. L'église de Corinthe contenait quelques-uns des puissants de la ville, mais ils étaient minoritaires. Paul revient à ça pour rappeler ce que je viens de communiquer. Dieu choisit les humbles et il le fait pour couvrir de honte les sages. Mais il ne le fait pas avec une volonté cruelle de prendre plaisir à couvrir de honte les sages. Mais il sait, dans sa sagesse, que ceux qui sont séparés de lui ne croient pas en avoir besoin. Les couvrir de honte, c'est l'heure où ils comprendront qu'ils ont besoin de lui, besoin de la croix. Le brigand à la croix qui demande à la fin de sa vie le pardon de son Seigneur n'est en réalité pas plus indigne que le haut sanhédrin, que le grand prêtre lui-même. Mais lui, humilié par les circonstances, ramené à sa condition de pécheur, lui, il comprend qu'il en a besoin. Et Paul le rappelle à des Corinthiens qui semblent l'avoir oublié. C'est pas illogique. Quand Paul parle de Pierre dans l'Épître aux Galates, il montre qu'on peut tous oublier la condition dans laquelle nous étions quand nous avons été appelés. Et qu'au moment où, dans la foi, nous devenons plus matures, plus grands, qu'on devient responsable de la commission d'évangélisation, on oublie la condition de notre condition de départ et qui est pourtant la condition dans laquelle nous sommes encore en nous-mêmes. Comme les disciples qui, entre eux, se demandent qui est le plus grand, Jésus répond « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous ». Et le serviteur de tous. L'humilité, ce n'est pas le point de départ de la marche chrétienne. C'est l'un des défis qui nous reste tout du long. Mais celui qui devient grand dans le royaume de Dieu ne l'est pas pour briller, mais pour révéler la gloire de Dieu. Il y a quelques années, il y avait une grande mode des pulls et des t-shirts avec la marque Godson. Et j'avais un t-shirt avec écrit « L'humilité précède la gloire ». Oui, certes. Mais c'est l'humilité du Fils qui précède la gloire du Père. Paul se prend en exemple dans cette humilité. Un peu plus tard, au tout début de 1 Corinthiens 2, où il rappelle qu'il est venu faible et tremblant. Et il montre qu'il a la ressemblance de Christ. humbles, non pas venus en puissance et en gloire, mais affaiblis et en l'acceptant. Parce que celui que Dieu a choisi et que le monde considère comme une folie, oui, c'est nous, son Église, mais avant toute chose, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui confondra les sages et couvrira de honte les puissants. Un jour, toute langue dira qu'il est Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Et si nous pouvons confesser dès aujourd'hui qu'il est Seigneur, c'est justement parce que nous avons été confondus et couverts de honte. Paul nous le rappelle, alors qu'il a longtemps été dans cet orgueil de sachant et de juste. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, nous montre que s'il devait se fier en la chair, il avait humainement toutes les qualifications requises. Un CV en béton. Paul était un spécialiste de la loi pour les Juifs et un instruit pour les Grecs. Mais ce qu'il a compris en rencontrant Jésus, c'est que s'il s'accroche à ce qui fait sa fierté, c'est en pure perte. D'où cette conclusion à 1 Corinthiens 1. Que celui qui veuille éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Il vient parler en humilité, à l'instar de celui qui est venu avant lui, qui est mort sur la croix, qui est revenu à la vie et l'a appelé à son service. Pour conclure, Dieu nous a fait don d'une capacité à comprendre et à raisonner, et c'est un don incroyable. Mais à la première tentation, cette intelligence nous a conduit à vouloir prendre nos propres choix et à penser hors du cadre de Dieu. Ce qui nous a séparés de lui, et en nous séparant de lui, nous allons trouver d'autres maîtres, souvent nous-mêmes, et vivre pour nous en nous opposant à nos frères. La folie de la croix nous pousse à nous voir dans un miroir dérangeant, mais libérateur. Dérangeant parce que c'est inconfortable, douloureux de réaliser notre nature orgueilleuse. Libérateur, parce que nous comprenons que nous n'avons plus d'intérêt réel à chercher notre gloire et notre identité ailleurs qu'en lui. Et à nourrir les divisions et les médisances, parce que nous savons que c'est lui qui nous unit. Je terminerai par la lecture de quelques versets de Philippiens 2 qui nous rappellent qui est Christ et ce qu'il a vécu. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions. Seigneur, nous venons à toi en essayant de nous distancer de cette volonté d'une gloire propre. Seigneur, la nature humaine revient au galop en permanence et nous devons en permanence revenir à ce que tu nous dis de nous, mais surtout à ce que tu dis de qui tu es, parce que nous en bénéficions et nous le partageons. Seigneur, merci parce que à la mort, à la croix, tu as pris toute notre indignité et tu as aussi pris notre capacité à croire que nous sommes dignes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour cette dignité que tu nous rends. Là où il y a de la division, oui, Seigneur, mets ton unité par la croix. Aide-nous à mûrir, à nous détacher pas à pas de cet orgueil ou parfois de cette dévalorisation qui nous pousse à vouloir nous sentir un peu au-dessus parce qu'au fond, on sent qu'on en est indigne. Aide-nous à aimer avant toute chose et à t'aimer toi. Je vais clore par l'introduction. Au tout début de 1 Corinthiens 1, Paul commence par rendre gloire à Dieu pour ce que les Corinthiens ont. Humainement incompréhensible, les Corinthiens semblent n'avoir rien compris, mais non. Paul glorifie Dieu parce que Dieu leur a tout donné pour qu'ils puissent mener une vie juste. Dieu nous a tout donné pour que nous menions une vie juste. Merci de votre attention.